Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Aujourd'hui, Cap et Cap sera thématique autour de mai 68. Il y a quelques jours, Gilbert Laval, qui était l'ancien correspondant de Libération à Toulouse, était venu présenter son dernier ouvrage, « À ombre blanche ». Un ouvrage intitulé « Le gauchisme flamboyant l'après mai 68 à Toulouse ». Présentation qu'il a faite avec Jean-François Mignard, que vous entendez à ce micro, et notamment avec moi, dans notre émission de commentaires politiques « Ça va mieux », Jean-François Mignard, qui est également secrétaire national de la Ligue des droits de l'homme. La salle d'ombre blanche était pleine, les échanges ont été nombreux. Je vous propose de les écouter.
À l'occasion de la parution, maintenant depuis quelques semaines, du dernier ouvrage de Gilbert Laval, ici présent. Bonsoir. Donc, qui a sorti ce magnifique livre que vous avez à l'entrée, là, qui s'appelle « Le gauchisme flamboyant, l'après 68 à Toulouse ». Voilà. Donc, je vais faire une petite introduction. Je suis là pour ça, quand même. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet. Donc, Gilbert Laval, je vais le présenter très rapidement. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà. On peut commencer déjà à l'applaudir.
On va arrêter.
Bon, mais écoutez, tout est dit, on peut repartir. Gilbert Laval, il a été lycéen étudiant dans la région, il reviendra certainement derrière. Il est plus connu chez nous comme ayant été le correspondant de Libération à Toulouse pendant quelques années.
30 ans, juste.
Voilà. Fonction qu'il a quittée il y a quelques semaines, quelques mois.
Le 15 janvier 2015. Mon Marignan à moi. Ma bataille de Marignan.
Donc, depuis, il est bien entendu pas resté inactif. C'est un compulsif cosmique, voilà. Et donc, il a sorti toute une série de livres qui sont liés à la réalité toulousaine, on va le dire, puisque après le livre fait directement signé par lui, il y a un livre sur ce qu'on a à Toulouse, ce qu'on appelle les Ételènes, les Ételènes, le Ételènes, les avocats. Je pense qu'il y a des gens aussi à la salle qui connaissent. Ça risque de revenir aussi. Là, on est en terrain de connaissance pour pas mal de personnes. Et puis donc, il y a ce livre-là. Et c'est un livre qui, quand on l'a lu, quand je dis « on », là, c'est en tant que Ligue des droits de l'homme, on a été intéressé par le fait que, et on y reviendra là aussi certainement, il y a deux aspects qui nous intéressaient au-delà du côté un peu... ancien combattant, quoique, que peut représenter un livre qui est un livre un peu de souvenir pour des gens qui ont mouillé dans cette affaire-là, pour le dire comme ça, et j'en fais partie.
Surtout pas.
Voilà. Mais pour ça, on n'est pas déçu, on ne va pas être déçu du côté de la commémoration, du côté de l'ancien combattant, mais ça produit âgé continu. Mais ce qui nous a intéressé, c'était justement le fait que c'était pas ça, pour autant qu'on veuille aller au-delà d'une première impression comme ça. C'était d'une part parce que c'est un livre qui se penchait sur, j'avais envie de dire avec un peu de filouterie, mais parce que ça correspond à un enjeu politique, pas tant en mai 68, puisque c'est de mai 68 dont on rabat éventuellement les oreilles, mais sur la période qui suit juste après, ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre de parution qu'on a. On est dans la commémoration du mai 68 qui, à Toulouse, correspond à quelque chose, mais peut-être moins significatif que la période qui a suivi. Donc, c'était ça qui était intéressant. Il y avait aussi autre chose qui était intéressante, c'était que ça traduisait, ça avait comme volonté, on sentait dans ce livre, l'idée de montrer ce que ça pouvait être que la description au plus près du réel, sous des formes différentes, de ce que c'était qu'un engagement politique. Ce que c'est que l'engagement, et pour nous en tant que Ligue de l'homme, c'est quelque chose qui, d'une part, nous parle, et renvoie des questions qui sont d'actualité, parce que c'était cet engagement à l'époque, et éventuellement on pourrait se poser la question de l'écart qu'il y a avec ce que c'est aujourd'hui, les formes que ça peut prendre. Voilà. et ce que c'était que le politique ou la politique à cette époque-là par rapport aussi aujourd'hui à ce qu'on peut avoir. Voilà, ça, c'était l'objet qui nous intéressait. Bon, je dois dire, il y a aussi une dimension qui est une dimension personnelle. Je l'ai dit, c'est un livre dans lequel je me reconnais, moi, personnellement, parce que je fais partie d'une génération. Il y a des passages qui sont des passages qui sont directement des passages que j'ai vécu. Et puis, il y a beaucoup de haine dans le livre. Il y a beaucoup d'histoires hein, comme ça hein, que j'ai dans lequel j'ai trempé voilà hein, mais et de les voir mettre bout à bout comme ça hein, quand on les vit hein, comme ça quand on les a dans la mémoire c'est toujours un petit peu informe ou on leur donne un sens des fois qui est un sens empiriquement comme ça mais de les voir bout à bout c'est par exemple aussi quelque chose moi qui m'a alors outre le fait que c'est toujours intéressant hein, parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse, mais aussi c'est intéressant d'avoir comme ça cette espèce de vision un peu plus panoramique de quelqu'un qui peut jeter un regard, qui balaye. Alors voilà. Alors ce livre, donc ouais, là, c'est aussi un objet qui est un objet. Alors il y a deux questions, mais j'ai posé une, puis je poserai la seconde question. Après, la première question, c'est ce livre, qu'est-ce que c'est hein, alors, l'introduction donne des éléments, mais peut-être c'est important. Est-ce que c'est un ouvrage d'historien? Est-ce que c'est un ouvrage de journaliste? Est-ce que c'est de l'anecdote? Est-ce que c'est du roman fiction historique? Voilà, c'est première question que j'ai envie de poser.
D'abord, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est surtout pas un livre de souvenirs. Ensuite, ce n'est surtout pas non plus un livre d'histoire. J'étais historien quand j'étais petit, mais ça m'a passé. Et on n'écrit pas l'histoire, on ne fait pas de l'histoire avec de l'histoire immédiate. Alors, si on a 100 témoins d'un fait, on a 100 versions du même fait. Donc il n'y a pas d'histoire à écrire. Les choses ne sont pas établies, ne sont pas finies. Donc ce n'est surtout pas un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus une encyclopédie ou un annuaire de l'extrême gauche toulousaine. Ça n'a aucune visée encyclopédique de la période. Il ne s'agit pas de tout raconter. Mais je pense que tu as saisi, en racontant que je mettais les gens en scène et que vous pouviez vous y retrouver, j'ai voulu faire un récit de ce qu'avait été cette époque. Et donc, ayant été 35 ans journaliste, 30 ans à Libé, mais 35 ans au total, j'ai gardé quelques manières. Et donc... j'ai fait comme un reportage dans l'histoire, comme un reportage dans le temps. Voilà. Donc, je suis remonté 50 ans en arrière, enfin, vous voyez à peu près, j'ai remonté les pistes, j'ai remonté les ficelles, je suis remonté aux sources, j'ai retrouvé des lieux, j'ai retrouvé des gens, j'ai fait exactement ce qu'on fait quand on est journaliste et quand on est en reportage. Voilà. C'est un reportage dans le temps que j'ai fait. L'avantage de cette façon de faire, c'était que je mettais ça en mouvement. Je mettais tout ça en mouvement. Et ça me permettait de... La chose que je voulais traduire, c'est que ces années-là avaient été un élan formidable. Il y avait eu 68, avec l'explosion gigantesque que tout le monde le sait, enfin, au moins dans cette salle, une remise en cause de toutes les hiérarchies, de toutes les autorités, de tous les pouvoirs. Donc c'était formidable. Et donc, là, c'est comme si les murs qui enserraient une société faite d'interdits, contraintes, étaient tombés. Et les années qui ont suivi, les années de gauchisme, et du gauchisme flamboyant, et je dis, sont les années d'un élan extraordinaire. Les murs de 68 venaient de tomber. Et toute la jeunesse, enfin, en tout cas l'extrême gauche, a tenté de poursuivre l'aventure, mais avec sa traduction politique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire vraiment la révolution, c'est-à-dire par la prise de pouvoir, qui n'avait pas été l'objet du tout de mai 68. En mai 68, il ne s'est jamais agi de prendre le pouvoir. Qui se souvient d'une manif qui a eu lieu à l'Élysée, une manif à Matignon? Une manif à l'Assemblée? Non. Les lieux de pouvoir ont été totalement épargnés en 68. En 68 à Paris, on a occupé quoi? L'Odéon, un théâtre. Donc, c'était autre chose qui se jouait. Et un peu la bourse aussi. Mais c'est quand même juste un tout petit peu.
Oui.
Mais c'était symbolique.
C'était...
Oui. Non, mais je parlais de lieux de pouvoir.
Oui.
Mais donc ce sont des lieux de culture, des lieux d'enseignement, des lieux de la société. C'était pas des lieux de pouvoir. C'était pas des lieux de pouvoir. Donc et il y a eu la tentation après tout ça de l'extrême gauche à imaginer que tout ça pouvait être poursuivi et on devait arriver à la société merveilleuse, évidemment, que la révolution menée par l'avant-garde du prolétariat nous fournirait. On est tous d'accord, on a drôlement bien fait de réussir.
Alors, deuxième question, là, la première question, c'était... Alors, c'est des questions aussi un peu de définition. C'est le gauchisme flamboyant. Flamboyant, je comprends, mais le gauchisme, ça m'intéresse comme question, parce qu'entre entre la maladie infantile du communisme qu'on retrouve dans les références, comme ça, l'extrême-gauche à l'époque, le gauchisme marcelin dans les pages de l'Humanité, le gauchisme, là, on a une, comment dire, quand on lit le livre, c'est ses ambiguïtés, on a une comment dire, c'est un vocable globalement positif, comme on disait aussi dans les colonnes de l'Humanité, alors que c'est par définition d'emblée, ou du moins à l'époque, me semble-t-il, pour l'avoir un petit peu vécu, ça a une connotation un petit peu péjorative quand même, le gauchisme.
Mais 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ça reste profondément, à mon sens, positif. Il faut absolument le valoriser. Ça a été un élan extraordinaire. Où il y avait vraiment la production d'un projet collectif. Aujourd'hui, dites-moi où il est le projet collectif. Moi, je ne vois pas poindre. Donc, c'était très créatif. Tout le monde se réinventait. Tout le monde réinventait son rapport à la société, son rapport à l'autre. Les prolos apprenaient à dire merde au patron, les femmes à dire merde à leur mari. Et ça a fini que, avec nos comités de soldats, les soldats ont fini par dire merde à la hiérarchie militaire. Donc, c'était une explosion extraordinaire. C'était très créatif, c'était productif. D'une modernité absolue. Voilà. Et donc, alors pourquoi, à mon sens, c'est resté absolument positif. Pourquoi flamboyant ? Ça m'est venu comme ça. Je me suis moi-même demandé d'où me venait cette expression. Et donc, comme j'étais un peu historien, vous ai-je dit, quand j'étais petit, il y avait le gothique flamboyant. Oui. Et le gothique flamboyant, c'était... par son architecture, par les nervures de sa pierre, par les courbures et les contre-courbures, l'ensemble devait donner l'aspect de la flamme. Et nous, dans le gauchisme, on a voulu incendier la politique. Enfin, on voulait une politique de feu. Enfin, ce terme de feu, et puis la société elle-même était absolument inflammable par ce que nous y avions introduit. Enfin, tout était chahuté, tout était en révolution, c'était formidable. Donc, le feu correspond parfaitement. En plus de ça, quand on prend soin de regarder dans un dictionnaire, ça m'arrive souvent de faire ça. Quand on est journaliste, on vérifie toujours les bêtises qu'on écrit. Voilà. Et flamboyant, c'est aussi un petit côté tapageur. Quelque chose de flamboyant, c'est tapageur. Et le gauchisme que nous avons produit était certes une politique de feu, mais c'était aussi un peu tapageur.
Oui, et de grands absents dans ce livre. De grands absents, c'est-à-dire la gauche instituée, le Parti socialiste, les radicaux socialistes, le Parti communiste, et c'est... quand on lit ce livre-là, ça fait partie du décor, de la toile de fond, mais c'est délibérément, c'est une espèce de contre-forme de l'objet du livre.
Et, y compris quand même, bon, donc, c'est les années qui suivent 68. Donc 68 n'est pas spécialement... il y a une journée qui est décrite, le 68. 68, c'est quand même 7 millions de grévistes. C'est une des plus grandes grèves générales que le pays ait connues. Mais il n'est même pas question des syndicats. Sauf un tout petit peu de la CGT et de la CFDT qui aide les gauchistes. Mais non, c'est tout à fait anecdotique. Pourquoi ? Parce que ce soit les partis de la gauche institutionnelle ou les syndicats, ou la gauche parlementaire, tout ça était représentant du monde en place, du monde assis, institué, que nous voulions bouleverser. Donc, que ce soit le RPR n'existait pas, c'était l'UDR, que ce soit l'UDR, la SFIO, c'était encore la SFIO, ou le PC. Tout ça, c'était le vieux monde. C'était le vieux monde. Et c'est quand même un Toulousain qui a écrit ce slogan, moi, que je juge le plus marquant et le plus parlant de cette époque-là. C'était « Cours, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ».
Oui.
Voilà. Tu le connais peut-être.
Oui, il s'appelait Daniel Benzel.
Oui, ça peut.
Voilà. C'était celui qui nous disait aussi que l'histoire nous mordait la nuque.
Absolument.
Voilà, donc, ce serait peut-être un livre à écrire par ailleurs, celui effectivement de la gauche instituée ou des syndicats.
Oui. Mais là, comment dire, d'une part, cette gauche-là, c'était le vieux monde, donc il ne m'intéressait pas de le traiter. Enfin, ou alors. On peut toujours réécrire l'histoire au jour le jour, faire des chronologies, voilà. Ça ne m'intéressait pas. Et même au sein de l'extrême gauche, il y a tout un pan de l'extrême gauche dont je n'ai pas parlé. Je n'ai parlé que de l'extrême gauche mouvementiste. C'est-à-dire celle qui voulait absolument tout secouer, tout bouleverser. Il y avait, au moins, chez les Mao et chez les trotskistes, il y avait deux organisations absolument vitrifiées, c'était le PCMLF, le Parti communiste marxiste-léniniste de France.
Les meuleux, comme on dit.
Les meuleux, oui. Alors eux, tout simplement, c'était très clair, 68 et les années qui ont suivi, c'était pas la classe ouvrière qui était en train de remuer, c'était les étudiants, donc les fils de bourgeois. Tout ça n'avait aucun intérêt, ça ne mènerait en aucun cas à la révolution telle que le PCMLF voulait la faire. Donc, on laisse tomber, on ne les regarde pas. Ils ne sont même pas sortis dans la rue pour une seule manif, je pense pas. En tout cas, personne ne les a jamais vus. Et chez les trotskistes, il y avait par exemple, alors là ils étaient assez nombreux, je fais l'impasse sur l'OCI, mais...
Oui, qui était quasi inégal.
Il y avait Lutte Ouvrière. Donc, à Lutte Ouvrière, il y a quelqu'un que les Toulousains connaissent bien, enfin, c'est Feu, Jean-François Grelier, qui s'est beaucoup occupé d'AZF en suivant. Mais Jean-François Grelier était déjà à Lutte Ouvrière et lui me confiait que de la même façon, non, tout ça c'était une agitation étudiante, c'était pas un mouvement de fond qui les intéressait. Donc je n'ai retenu dans ce bouquin que les mouvementistes, c'est-à-dire ceux qui vraiment remuaient. Donc c'était presque, enfin, c'était la philosophie. Les Mao de la gauche prolétarienne, de la GP, de la cause du peuple, avait acquis le surnom de Spontex. Spontex, c'était tout simplement, ça faisait référence à l'éponge à vaisselle avec le côté qui gratte. C'était, voilà, les Mao qui grattent la société. Mais c'était surtout, à cause de on nous appelait aussi les Spont, parce que c'était, ces Mao-là, croyaient absolument à la spontanéité révolutionnaire des masses. C'est-à-dire les masses étaient nécessairement révolutionnaires. Il suffisait de leur ouvrir quelques portes ou de balayer devant, comme au curling, là, et elles allaient tout droit vers la révolution. Donc voilà, c'était une philosophie. Et il y a eu beaucoup d'anarchistes de la CNT, la seconde génération de la CNT, pas les parents, hein. Qui eux-mêmes étaient très mouvementistes. Il y a même des anarchistes, c'est-à-dire des lecteurs de Bakounine, qui sont passés à la cause du peuple, des lecteurs de Mao, un des pires staliniens qu'on ait jamais vu, quand même. Bon. Donc,
il y avait une très forte porosité.
Le passage de l'un à l'autre était très facile. Voilà. Il y avait une grande porosité. Mais eux étaient les plus animés. Et il y avait la Ligue communiste, la JCR, puis la Ligue communiste, puis la LCR, qui était moins spont, qui partait pas dans tous les sens comme ça, qui se privait bien, mais qui était très réfléchi, très organisé, très analytique. Il fallait tout décortiquer, il fallait tout savoir de ce qui allait se passer. Et surtout, elle ne voulait pas se couper. Il y a des esprits critiques dans ce sens. La Ligue ne voulait pas se couper de la partie mouvementiste parce que, à l'heure de la Révolution, il fallait surtout pas être coupé de ceux qui allaient la faire, la Révolution, et de ceux qui pouvaient être les alliés. Voilà. Donc tout ce qui était remuant et tout ce qui pouvait aller dans le sens du changement de la société, il fallait être allié avec.
Oui. Et dans ce livre, il y a, on voit, enfin, je suis comme ça, enfin, personnellement, à la lecture, on voit un aspect qui est un aspect un peu lumineux de cette époque-là, qui est celui effectivement de la révolte contre des contre-coups de 68, hein, des secousses sismiques et de la révolte contre la société fermée, celle de Gaulle, celle du Hain, voilà, où on abat un certain nombre d'interdits, hein, et où, alors, moi ça m'intéresse parce qu'on retrouve une logique qui est une logique de droit contre une logique de devoir. Moi j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire, on reprend la main sur le droit à contre, hein, la société de devoir qui est la société de l'ancien régime. Voilà, c'est un peu, c'est une espèce de, comme ça, de rééquilibrage, c'est peut-être une manière de dire pour moi aussi cet élan, hein, mais il y a ce côté sympa mais compliqué qui est la chute des tabous, la liberté sexuelle, etc., etc. Ça c'est le côté un peu sympa. Puis il y a un autre aspect quand même qui est un aspect, moi je trouve, qui est intéressant, qui donne à penser, c'est la question que la question de la violence, hein. C'est-à-dire tout ça en même temps aussi est traversé par en permanence. Alors, sous des aspects extrêmement anecdotiques, de la castagne devant à l'arsenal, ou des choses comme ça, ou alors la manif de janvier 1974 contre Pouillantiche, où là, on a... c'est autre chose quand même. Hein, je peux parler aussi, on est quelques-uns
pour en parler. La bataille rangée.
Voilà, c'est... Et cette violence, qui est une violence qui arrive à la limite de la... de la violence politique, hein, voire de point de non-retour, que peut représenter la mort de personnes, hein, ou des choses comme ça, et qui, d'une façon ou d'une autre, n'a jamais passé cette limite-là.
C'était d'une grande violence, mais d'une violence désarmée, absolument. Alors qu'il y avait des armes partout dans Toulouse, que l'immigration espagnole, c'était pas des armes de la guerre d'Espagne, ils avaient la plupart... les avaient laissés à la frontière en rentrant.
Ça pouvait servir aussi.
Oui, mais ce sont les armes de la résistance que les Espagnols qui se battaient dans la résistance avaient récupérées. Et elles étaient encore à disposition. Il y a le fameux le cordonnier, le chef de la CMP ici, Zapatero, qui fournissait des armes à qui en voulait. Et donc, il n'y a que Jean-Marc Rouillant et deux de ses copains qui s'en sont saisis de ces armes. Mais personne n'en a voulu. Et même, il y a quelques-uns, c'est amusant, parmi les plus pacifistes, dont même quelques-uns du PSU, qui se disaient pacifistes, qui se revendiquent comme pacifistes, qui ont acheté des armes, parce que ça faisait partie un peu de la panoplie du révolutionnaire. Après tout, le pouvoir était au bout du fusil. Et donc, être révolutionnaire, c'était une chose, mais c'est, pour aller au bout, ben peut-être un jour faudrait-il être armé. Et en même temps... Le monde autour de nous était extraordinairement violent.
Oui, il y a le 73, c'est le Chili.
Voilà, exactement. Ce qui a entraîné au moins deux personnages que je connaissais du PSU à aller acheter rue Gambetta, ici, là, à aller acheter une armurerie qui n'existe plus, à aller acheter des carabines d'un de longs rifles. Mais dont ils ne se sont jamais servis. Mais ça faisait partie d'une espèce de panoplie intellectuelle, comme ça. Mais... sinon, globalement, la violence était restée absolument désarmée. Ah, voilà. Et donc, c'était très dur. C'était absolument rugueux. Le camarade, il y a un camarade qui devait être là et qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas encore arrivé.
Pas encore.
Voilà, pas encore. Qui raconte quelques-unes de ses gardes à vue à la rue du Rempart Saint-Étienne. Il pouvait acheter quelques kilos de pommes d'arnica en sortant. Hein. Il était fracassé. Mais personne ne se plaignait qu'un flic vous ait fichu un bourre-pif. Ça faisait partie, c'était le jeu. Nous, on leur envoyait des cocktails moto dans les pattes, et puis eux, ils nous tapaient dessus à un coup de matraque. Voilà. C'était rugueux aussi, pourquoi ? Parce que 68 venait de passer, où les pouvoirs, les autorités venaient de sentir le vent du boulet très très près, siffler à leurs oreilles, là. Et donc il s'agissait pour eux de reprendre les choses en main, Et donc, de ne plus rien laisser passer, il n'y avait plus une manif qu'on laissait déborder, voilà. Et ça cognait dans tous les sens. L'époque était. On imaginait encore que ces petits jeunes, il suffisait d'un peu d'autorité pour les calmer. Ça n'a calmé personne, mais voilà. Donc, le climat, c'était vraiment terrible. Il y avait les colonels en Grèce, il y avait le Vietnam bombardé. Enfin, le climat général, il n'était pas absolument étonnant de vouloir s'armer. Mais en même temps, il y a une anecdote assez rigolote concernant une des organisations de l'extrême gauche qui s'appelait la GOP, la gauche ouvrière et paysanne. Il y a un de ces grands animateurs qui, un beau jour, a un plan pour trouver des armes. Après le Portugal, alors, il y a pas mal d'armes qui circulaient parce que il y avait aussi des casernes au Portugal qui s'étaient vidées, donc il y avait des armes qui circulaient. Et donc ce type du PSU, son pseudo, c'était Fantôme. Fantôme comme Fantomas. Parce qu'il disparaissait toujours derrière une fumée extraordinaire de sa mobilette. Et donc, c'était Fantomas qui disparaissait derrière les fumées bleues de sa mobilette. Et donc ce fantôme, un jour, arrive et dit à ses copains, j'ai un plan, on peut s'armer, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il s'agissait d'acheter, mais bon, il y avait un plan. Et donc, naturellement, tous y sont allés de leur vol. Il fallait des sous, mais voilà, tiens, moi je te donne le temps. Tout le monde avait versé ses sous pour acheter des armes. Ça, sans réfléchir plus loin. Puis plus de nouvelles de ce fantôme pendant mettons un mois, je ne sais plus exactement. Personne ne sait. Au bout de mois, le fantôme revient en disant, ça ne marche pas, et il rend ses sous à tout le monde. Mais pas une question. Parce que tout le monde s'en fichait prodigieusement d'être armé ou pas. Mais ça faisait partie de la. D'une panoplie, mais il était évident que jamais personne ne se servirait de ça. Quoi. Donc, c'était pas armé. Et donc, c'était une violence qui ne devait pas passer aux actes.
Oui. Il y a une. Alors, ça aussi, c'est. Dernière chose, et puis après je pense que ce serait intéressant aussi qu'on puisse ouvrir le débat. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal à la lecture de ce livre aussi, ça décrit des personnages. Alors bon, il y a quasiment des figures archétypiques du militantisme là-dedans, hein, mais ça décrit une situation complètement paradoxale.
Bien connu.
Oui, paradoxe dans lequel il y avait des affrontements qui étaient des affrontements idéologiques. Fort, très marqué, hein, je veux dire, compris, c'est pas évoqué dans le livre, mais des fois ça se réglait au bouffe, au coin d'une manif, parce que il fallait pas que la manif soit déborde, etc., etc. Et en même temps, ce livre décrit quelque chose de l'ordre d'une communauté de vues, hein, de quelque chose qui fédère d'une certaine manière des gens qui, par ailleurs, Au-delà de l'espoir de la société idéale, bon, ce qui est quand même, une fois qu'on a dit ça, n'est pas très discriminant, hein, avait quand même des fois plus de différences que de ressemblances. Mais c'est traversé quand même par. On est partie prenante d'une même chose.
Ça a été un élan. Et donc, dans une révolution, personne n'est d'accord pour aller vers le même objectif. Mais personne n'est d'accord sur l'objectif lui-même, mais tout le monde est d'accord pour courir dans le même sens. Et quand tout le monde court dans le même sens, c'est là qu'on découvre que c'est la révolution. Sinon, c'est autant d'individus qui veulent aller. Donc, c'est l'élan qui compte. Les disparités n'importent pas. Mais toi, tu as retenu ça, et moi, au total, il y a autre chose que tu n'as pas relevé. Mais. Qui m'a beaucoup surpris en rédigeant ce bouquin, parce que je savais qu'il y aurait un petit chapitre de pas grand chose sur la naissance du mouvement des femmes. Or, c'est une des plus grosses sections de ce bouquin que j'ai découvert en avançant, parce que à mon avis, ça c'est ce qui va rester de ces années-là. C'est un des trucs essentiels. C'est la naissance du mouvement des femmes, mais surtout à quel point ce mouvement a transformé l'extrême gauche elle-même. Parce que l'extrême gauche était composée d'abominables machos, Il n'y a pas à se raconter d'histoire. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils l'ont été. Les filles de la Ligue se perdent en mots les plus durs les uns que les autres pour qualifier ce qu'ont été les chefs. Elle parlait même de certains droits de cuissage sur les chefs de la Ligue par rapport aux jeunes étudiants.
Enfin, bon, ça, pas exagéré non plus.
Non.
C'est vrai.
Et voilà. Et donc.
Et elle Jean-Pierre Millet en violeur, non.
Et donc, ce mouvement a totalement. C'est le mouvement qui est resté qui a bouleversé le plus profondément, à mon sens, la société. Et qu'est-ce qu'on retient après la majorité à 18 ans, tout le monde l'a eu, mais la liberté de l'avortement, c'est quand même le MLF et le MLAC qui l'ont obtenu. Les organisations gauchistes, c'est aller au plus simple, c'était écouter les filles. Calmez-vous, on fait d'abord la révolution, puis quand le prolétariat aura le pouvoir, vous allez voir, on va réaménager tout ça, ça sera magnifique. Elles se sont vite rendues compte que c'était pipeau et qu'il fallait quitter tout de suite ces organisations et s'occuper elles-mêmes, s'organiser elles-mêmes et indépendamment. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont quitté largement l'extrême gauche, elles ont créé le MLF, le MLAC. Et puis c'est elles qui ont transformé la société.
Je sens qu'on peut ouvrir le débat, parce que là, il y a de la réaction, bien entendu. On va essayer de faire, en partageant peut-être alors des mémoires, parce qu'il y a des gens ici qui sont dans cette mémoire-là, on va peut-être essayer de faire de l'histoire, c'est-à-dire de l'objectiver en mutualisant cette mémoire. Il y a peut-être aussi des gens, il y en a, des gens qui sont aussi là... et qui découvrent, cette réalité-là. Voilà, donc... La parole est à la salle. Je propose qu'on prenne deux ou trois questions ensuite que
oui,
tu
oui.
répondes. Voilà, sinon, mais après, je suis obligé de galoper pour le temps.
Je veux bien qu'on réécrive l'histoire à l'occasion du cinquantenaire et qu'on rabâche les mêmes insultes dont on nous a à peu près il y a 50 ans, mais il y a quand même des limites.
Pardon, il y a des...
Il y a des limites.
Des limites.
Alors, les limites sont celles de... On a l'air de ce qui est exactement passé. Alors, premièrement, rectification. Claude Mathussi, je suis un des fondateurs et dirigeants du PCMF d'Afghanistan. Et j'ai été, avant que le PCMF soit créé à Toulouse, le président de la Fédération des résidences universitaires de France et président d'ailleurs de l'Association des résidents de Rangueil. En tant que leader étudiant, c'est moi qui organisais sur le plan national l'abrogation unilatérale par les étudiantes et les étudiants des règlements intérieurs qui interdisaient donc les visites et la libre circulation dans les cités. C'était le 14 février 68. Alors quand on me dit que le PCMLF avait la même position que le PCF sur les étudiants révolutionnaires qui étaient les filles de Courbois, on va dire, ou il faut en rire, ou s'en plaindre, je ne sais pas. Enfin, on va dire, où vous avez vu ça? Où vous avez vu une telle déclaration du PCMLF au sujet des étudiants? Nous avions des camarades étudiants dans les organisations étudiantes du début à la fin où on a existé. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques autres militants et dirigeants de l'époque qui pourront témoigner. Alors ça, c'est la première rectification. Deuxièmement, les machos de l'époque, par rapport à nos camarades militants, au PCMLF, il y avait la parité dans toutes les organisations dirigeantes. Hein?
Très bien.
Je tiens à vous le signaler. Non, depuis les années 70.
D'autres réactions, questions, réflexions?
Oui. Alors, je prends la parole pour dire plusieurs choses. La première, c'est que moi-même, je suis fils d'un militant communiste du PCA qui a été emprisonné en Algérie parce qu'il était pro-FLN. Ensuite, j'étais forcément anti-PC au retour d'Algérie à 13 ans et demi. Ensuite, j'ai été de toutes les épopées, rocambolesques et ubuesques, et pour dire finalement tout ça pour ça. En réalité, j'étais à la fois, dans un premier temps, avec les Mao, les Spontex, les anarchos, que je me suis qualifié moi-même d'anarcho-débile, J'ai été AVO avant de devenir ALO pendant 2 mois. Hein. Et je suis à l'origine sur Toulouse de la création du mouvement des travailleurs arabes parce que, effectivement, je parlais arabe et donc j'ai aidé des travailleurs immigrés à cette époque-là. Mais en réalité, et pour finir, parce que sinon il y en aurait pour des ans, des années, dans ton livre, je l'ai lu, mais je trouve que c'est. Bon, c'est des épisodes, mais il y a, au niveau de la chronologie, au niveau des faits, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la réalité. C'est comme tu dis, c'est plutôt de la fiction. Parce qu'après, certains d'entre nous, tu les qualifies de Verlier, par exemple, je sais que c'était pas ça. Hein. Donc, quand Léo Ferré est venu à Toulouse, je ne sais pas qui c'est que tu as trouvé, mais c'est moi qui suis intervenu. Il y avait Charlebois en premier, c'est moi qui l'ai jeté de la scène. J'avais pas du tout prévu de venir là. Je suis allé chercher une copine, on m'a dit elle n'est pas là, elle est au palais des sports. C'était pratiquement plein, le palais des sports. Et j'ai vu un mec qui faisait des arts martiaux avec moi. Il me dit qu'est-ce que tu veux. J'ai dit je veux rentrer, il m'a dit viens. Et il m'a amené sur la scène. Charlebois s'est mis en colère, il m'a jeté. À partir de là, tout le monde est monté sur la scène. On l'a fait stagner. Il a voulu revenir, ça n'a pas été possible. Les mecs de Léo Mandiot. Toinou, parce que moi, mon prénom c'est Toinou. Toinou, il faut que tu arrêtes tes hommes, j'ai pas d'hommes, moi je suis tout seul ici. Alors bon, finalement Léo a dit, il va être dérentré. Donc la salle était pleine, 6000 personnes, il y a eu 200 personnes de plus. Voilà, j'arrête là, je vous dis que pour ce qui est de ton bouquin, c'est intéressant, c'est anecdotique.
Merci.
Mais en tant que prof d'histoire à la retraite, c'est pas d'histoire. Voilà.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
Il y a l'exercice est redoutable.
Super. Pardon.
L'exercice est toujours redoutable. C'est mieux quand ils sont morts.
Oui.
On oublie quand même pour les relations avec la CFIO, les partis institutionnels, c'est que souvent ils étaient cautionnés dans les procès, hein, les témoins de moralité, n'est-ce pas Bernard? Et il faisait partie de l'establishment, il venait témoigner de la bonne volonté d'insertion, de la moralité. Il nous servait de témoin de moralité.
Absolument. C'est absolument vrai. Il y a eu un exemple, quelqu'un qui a beaucoup servi de caution comme ça, c'est le fameux Jules Fourier. Alors Jules Fourier, on l'agitait partout. Il avait été député du Front Populaire, c'était un député du PCF, un député communiste du Front Populaire.
Et donc, c'était le plus jeune député.
C'était le plus jeune député à ce moment-là du Front Populaire. Il était devenu très ami avec la Ligue communiste. Et donc, la Ligue communiste et Jules Fourier eux-mêmes sont allés jusqu'à soutenir un procès, aller expliquer que. Ils sont allés témoigner de la moralité du pire des Mao de la GP qui a pu exister, qui était Gigi. Gigi qui était un frappadin complet. Et à tel point que même ses copains, enfin, le comité exécutif de la GP à Paris, il avait appelé Gigi la masse. Il était incontrôlable, il faisait n'importe quoi. Et tout le monde savait parfaitement qu'il faisait n'importe quoi, et ses copains surtout. Eh bien, le jour où il s'est fait toper. Il y a Jules Fourier et un membre de la Ligue qui sont allés témoigner de la bonne moralité de ce Gigi et que non, il fallait surtout pas le.
Oui, c'était la question, qu'est-ce qui unit des gens qui par ailleurs, ayant connu les trois, étaient par ailleurs de très près, très très divisés par ailleurs.
Oui, ben voilà. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La Ligue qui venait très souvent en soutien aux mouvementistes, Dieu sait qu'ils n'avaient rien à faire avec les anars ou les Mao, mais c'était une façon, on ne laisse pas seul des alliés potentiels. On est de toutes les mêmes bagarres, on est des mêmes âgés, on est dans les mêmes manifs. Donc, quand on prétend mener la lutte, quand on prétend prendre la tête des troupes, tenir le drapeau, il faut aussi être capable de défendre le dernier de la troupe. Pour garder
tout. Gigi, il est intervenu quand nous sommes avec la GOP. On a fait une intervention auprès de travailleurs turcs qui étaient exploités dans les forêts et qu'il fallait qu'ils montent à un congrès de militants turcs, hein, qui ne vivaient
n'étaient qu'en France parce qu'ils étaient exilés. Et à ce moment-là, Gigi, moi j'avais besoin de faire tirer les photos des reportages qu'on avait fait, hein, de ces gens exploités, et Gigi, il était là. Et je peux dire que Gigi, il était parfois effectivement un peu...
exubérant.
Voilà.
Un peu frappadingue, oui, parce que...
Mais il était là. Et il, est, et il était là, très
il
présent.
Il était là jusqu'au bout.
Ouais, il cognait...
Non,
oui, voilà, exactement. C'est bon, oui. Le petit moustachu là-bas.
Juste, aussi, nos relations avec les syndicats étaient un peu tendues. Moi, je me souviens, les défilés du 1er mai, c'était une sorte de rendez-vous. On était en queue de peloton. Et entre la manif principale, il y avait le service d'ordre de la CGT. Je ne sais pas, mais à chaque fois, il y avait des explications.
Il valait mieux ne pas y aller en tongs. Les coups de pied à les chevilles, ça faisait très mal.
Il y a deux interventions là.
Oui, pour moi, c'est une simple question. Quelle était la position du Parti communiste français qui a toujours le monopole de la Révolution, vous le savez, pendant cette période-là? Et quelle était sa position?
Il n'avait plus. Oui. Je vais vous répondre.
Mon grand-père qui a fait la guerre de 39-45, où il a été prisonnier, m'a toujours dit que l'extrême gauche était moins dangereuse que l'extrême droite.
Je suis assez d'accord avec vous. Oui, ben, pour vous répondre, monsieur, tout simplement, à ce moment-là, c'est vrai, le Parti communiste pensait avoir absolument le monopole de la Révolution, et en 69, aux élections présidentielles de 69, donc, quand De Gaulle a passé...
la démission, il est parti.
Il y avait... Le candidat de la SFIO, c'était Defferre qui a fait 5%, parce que la SFIO commençait à ne plus exister. Et puis Jacques Duclos, qui avait fait 20 ou 21%. Donc, ça restait, le Parti communiste à 20%, aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais à ce moment-là, c'était une force de gauche remarquable. C'était, sauf que là... Ils ont senti que c'était un peu ils faisaient partie du vieux monde. C'est le fameux malentendu infini dont parle Maurice Grimaud, pardon, entre les générations. La génération en place ne comprenait plus du tout ce que faisait la nouvelle. Et dont les révolutionnaires communistes, qui pouvaient se qualifier de révolutionnaires, ne comprenaient plus du tout ce que faisaient ces révolutionnaires, comme disait, gauchistes. C'est le mot essentiellement employé par les communistes au début. Les gauchistes, c'était tout à fait méprisant. Mais...
Oui, ils les avaient condamnés.
Oui, mais...
Vous savez que la CGT, à l'époque, était entre les mains, le secrétaire général était toujours un membre du parti.
Oui, ça a duré longtemps. Oui. Ça a duré longtemps.
Oui. Oui, à propos des armes, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'armes à feu. En fait. Moi qui ai sympathisé à l'UGP, quand on avait des barres de fer, des côtés motors, des pavés, des trucs, et ça pouvait quand même blesser grave. Sinon, tuer du moins un handicapé gravement, ouais. D'où les réactions de Fauchet, d'ailleurs, les grenades tirent pendues. Tu aurais pu nous dire quelque chose. Donc, quand même pas d'armes à feu, mais des armes assez conséquentes.
Voilà. Donc, c'était très rugueux. Oui. Mais aujourd'hui. Dans cette salle, il y a au moins la moitié de la salle qui sait encore comment fabriquer des ras-le-bol et des cocktails Molotov. Et ce sont des recettes qui se perdent, ça, monsieur. Mais à l'époque, tout le monde savait faire ça.
Oui.
Ça faisait partie, c'est comme se prendre des bourre-pifs en garde à vue. Ça faisait partie du jeu. C'était dans le...
Non, mais c'est ce qui est d'autant plus remarquable quant à la faculté qu'il y a eu à un moment donné... de savoir jusqu'où aller, pas trop loin, quoi. Hein. Puisque là, on est... c'est vrai, on le voit bien dans le bouquin, qu'il y a des armes qui circulent, qu'il y a une organisation quasi-militaire du service d'ordre qui peut investir, qui peut investir l'agence Heng, voilà, qui peut aller jusque aller au contact des forces de l'ordre devant le consulat d'Espagne, mais qui s'arrête à un moment donné. Alors, y compris les gens dont on pourrait imaginer qu'ils ne s'arrêteraient pas. Je vais le dire comme ça, pour avoir vécu, moi, des moments de cette période-là, et les jeunes de Champs-Élysées, il faut faire gaffe, ils sont très dangereux parce qu'ils pourraient aller passer de l'autre côté, du miroir. Hein, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des morts, c'est vrai que ça castagnait, mais il n'y a pas eu de mort, pour le dire comme ça. Hein, il y a certainement des gens qui ont été un peu esquintés. Oui. Et pourtant, des gens qui étaient, entre guillemets, incontrôlés, les fameux spawns, toutes les choses comme ça, on pouvait se dire, eh bien non, voilà, c'est...
Et c'était pas seulement...
Il y a un tabou, il y a une espèce d'interdit comme ça qui a fonctionné, absolument. Alors qu'on est... voilà.
Absolument. Et il y avait tellement de... voilà, faites-le parler, lui, là-bas. C'est lui que je pensais n'être pas arrivé. Il est là.
Alors, les spawns incontrôlés, il faudrait savoir si c'est eux, la JP, les Maos, le mouvement, qui allaient au maximum de la violence. Oui. Alors, ils étaient bien contrôlés, puisque justement, ils n'ont pas fait de morts.
Oui.
Parce que ce n'était pas dur de faire des morts. Parmi le stock que vous lancez, il y en a une grenade qui marche. Et il y a même eu des cas où elles ont marché. Et des flics ont laissé leurs couilles dans un cas, notamment... quand ils chargeaient le manif des armées. Donc, les spontex, moi je préfère le terme les mouvementistes, bon, c'est-à-dire ceux qui, à l'inverse des trotskistes, qui liquidaient les mouvements pour faire le parti dont on voit aujourd'hui ce qu'il en est, ont développé les mouvements, lycéens quand on a été lycéen, étudiants quand on a été étudiant, enseignants quand on a été prof à la fac, et même syndicaliste patronal quand on s'est retrouvé avec un petit cabinet. Voilà, c'est ce qu'on appelle la seconde gauche canal historique, une révolution qui part de la GEC. Et voilà. Donc, nous avons exercé la violence et nous l'avons contrôlée de sorte à atteindre nos objectifs que le mouvement tienne et qui passe à la télé, parce qu'évidemment, on savait bien qu'on n'allait pas prendre le palais d'hiver, qui passe à la télé. Et qu'un mouvement étudiant, s'il ne passe pas à la télé, mais il n'existe pas. Et quand je vois qu'on nous fait aujourd'hui un gros bordel parce qu'à Tolbiac, ils ont trouvé 3 cocktails, mais c'est la preuve même que ce n'est pas dangereux. 3 cocktails. Vous avez vu Tolbiac ? Moi, j'ai fait cours comme prof à Tolbiac. C'est gigantesque. Au Mirail, on avait 200 cocktails Molotov en continu pendant les 6 mois qu'on a tenu occupés la fac en 1976.
Et avec, voilà. avec des travaux pratiques pour les fabricants.
Voilà, on a même bon. Donc Spontex, ça c'est les trots qui le disaient, c'est plutôt mouvementiste. Oui. C'est-à-dire, et après ça s'est appelé la gauche ouvrière paysanne, ce qui a été la continuation plus intelligente avec Gramsci, machin, de ce que la GP avait d'un peu quand même ébouriffé. Oui. Voilà.
Je suis assez d'accord.
Sur l'intervention, apparaît une autre catégorie d'acteurs, ce serait intéressant d'en parler, qui est la police. Parce que quand on parle de la violence, je suis d'autant plus intéressé par ça, parce que nous, en tant que Ligue des droits de l'homme, je vois, on est en train de s'intéresser à la manière dont la police gère, entre guillemets, l'ordre public. Et c'est sacrément intéressant l'écart qu'il y a entre la façon dont ça se fait aujourd'hui et à l'époque, la manière dont les choses effectivement se passaient.
C'était pas du tout la même chose, mais il faut dire que le personnel policier n'était pas le même qu'aujourd'hui. L'encadrement, les commissaires à Toulouse, c'était Roger Delpirou, qui était un franc-mac, qui avait fait la résistance. C'était Maurice Espitalier, lui était déjà à la retraite, mais pareil, c'était un vrai résistant. Même mieux que ça, il avait été un des tontons flingueurs du réseau Morange. Donc c'était, il savait de quoi il parlait, lui.
Le réseau Morange était un réseau qui liquidait les miliciens pendant la guerre.
Voilà. Et il y avait évidemment le Bardou, le commissaire VRG, mais dont un des militants... Kéribus m'avait dit, mais il a été un papa pour nous. Mais c'est vrai qu'il était comme un papa. Pourquoi ? Parce que ces années-là, c'était jamais que 25 ans après la libération. Qui ne se souvient pas aujourd'hui parmi nous de ce qui s'est passé en 95? 95, c'était hier. Et bien, là, la libération, c'était hier. Donc, cet encadrement, les gens qui avaient participé à la résistance ne pouvaient pas condamner chez leurs enfants ce qu'eux-mêmes avaient produit, ce qu'eux-mêmes avaient imaginé ou avaient pensé. Donc, ils n'allaient pas se mettre à couiner contre des jeunes gens qui se battaient contre un mouvement qui zigouillait ses révolutionnaires. Je pense à Franco. Donc, eux s'étaient battus contre les nazis. Ben, que les enfants se battent contre Franco, ça faisait partie de la logique. Donc déjà, c'est autre chose. Et il y avait... Tout était négocié. Tout était négocié. Le camarade Bardou n'hésitait pas à pousser la... a poussé la porte du 14 rue de l'Étoile, le siège de la LCR, pour venir demander comment ça allait se passer, et jusqu'où ça pouvait aller. Alors, et d'accord, là, je comprends bien, alors, disait-il, que pour protester de la façon la plus visible et vigoureuse contre la condamnation de Picantiche, il vous faut au moins envoyer quelques cocktails en direction du consulat. Donc, pour ça... On vous laisse rentrer les 10 premiers mètres de la rue Sainte-Anne, et là, comme ça, vous pourrez, mais au-delà, il y aura des chevaux de frise, vous n'irez pas plus loin. Si vous allez plus loin, ça sera la catastrophe, je ne garantis plus rien. Donc, tout était négocié, d'accord, on fait comme ça. C'était, et de l'autre côté, les révolutionnaires qui disaient à Bardot, tel manif va se passer comme ci, comme ça, maintenant, ne vous amusez pas à déborder. Parce que si par hasard, nous on y va, on va la jouer dans le calme, si par hasard ça finissait mal, on est capable de mobiliser beaucoup de monde et vous savez qu'on fera beaucoup plus de mal que vous. Donc, tout était dans la confrontation et la négociation permanente. Voilà. Donc, entre les flics et les révolutionnaires, il y avait une négociation, il y avait une conversation. Et cela dit, dernière petite anecdote, je finis avec ça, un policier que je connaissais, enfin que je connais, sauf qu'il n'est plus policier, mais qui avait, à ce moment-là, qui avait infiltré des mouvements des mouvements d'extrême gauche.
Ça existait, ça aussi.
Et oui, il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait beaucoup. Mais il y en avait chez les Mao, mais à la Ligue aussi. Voilà. Et donc, ce flic, je l'appelle, je dis, c'est au début. Il y a plus de 2 ans de ça, avant de commencer le bouquin, je me dis peut-être je vais aussi aller chercher du côté de la police, avoir quelques. Et donc je le mets à contribution, je l'appelle, je dis est-ce que tu me causerais de ce que. Alors, il m'a toujours encardé sur plein de sujets, des sujets d'actualité, quand j'étais journaliste. Il me répond, Gilbert, non. Je dis pardon, non, je ne ferai pas. Je dis, enfin, il ne s'agit pas de mettre en cause, il s'agit juste de rapporter des faits. Enfin, il dit non, je ne le ferai pas. Et pourquoi ne le ferais-tu pas? Et c'est vraiment pas un type de gauche. Je suis sûr qu'il vote à droite. En fait, même s'il vote, enfin, il préférerait aller à la pêche. Et il me dit tout simplement, parce que ces types, avec le recul, j'ai tellement de respect pour ce qu'a été leur engagement sur le moment, que je ne veux pas parler de ça, parce que parler de ça, ça les dévaloriserait. En le lisant avec le recul, ça les dévaloriserait. Donc je ne te dirai rien. Voilà. Donc il y avait quand même une relation particulière de la police et des révolutionnaires. Alors quand ils en tenaient un, il y a quelques heures là, ça y est que je les ai retrouvés, qu'ils sont pris de belles tartes en garde à vue. Mais sinon c'était. Ouais.
Et puis il y a ceux qui sont passés à l'acte. Il y a ceux qui ont transgressé, qui sont allés au-delà de ça.
Qui sont
dans la violence.
En matière de violence, oui. Mais ils sont restés très rares et surtout très isolés. Parce que y a l'exemple formidable, je ne sais plus qui me disait qu'il n'y avait pas de chronologie dans ce bouquin. Évidemment, il n'y a pas de chronologie. Il ne s'agit pas de faire un bouquin d'histoire. On ne rend pas compte d'un élan. Et quand on fait un reportage, on commence souvent par la fin. Hein. Donc, là, j'ai commencé par la manif de janvier 1974, parce que ça résumait beaucoup de choses. D'abord, ça permettait de faire un état des lieux, un état des forces de l'extrême gauche. Et puis surtout, il y a quelque chose de formidable. Ça cognait dans tous les sens. Et on a même vu un militant de la Ligue, donc parfaitement encadré, et à un moment qui a eu la tentation d'aller prendre dans une NAS, de prendre au piège des cartes de CRS, mais...
À l'époque, les NAS, c'était l'autre...
Oui, voilà. Et donc, ils se disaient, si on fait comme ci et comme ça, on leur fiche une ratatouille, une pâtée, on se souvient donc. Mais, comme il était quand même, c'était un militant bien discipliné, la Ligue, quand il y avait des manifs, réunissait, il y avait le bureau de ville qui était réuni à la fédération, enfin la fédération rue de l'Étoile, et elle envoyait un représentant suivre la manif. Et le représentant rendait compte en permanence de ce qui était fait. Et la décision de faire ci ou de faire ça appartenait au bureau de ville, pas à la manif. Et donc c'est le commissaire politique entre les deux qui faisait le lien. Donc le camarade trotskiste qui voulait aller ficher une pâtée au CRS en rend compte au camarade commissaire politique. Lequel, c'était Tony, Antoine Artus, lequel lui dit « Non, on ne va pas faire ça. Et pourquoi ?»« On ne va pas faire ça. » Parce que, est-ce que le public auquel nous sommes censés nous adresser par cette manif, comment ce public va recevoir qu'on fiche une ratatouille au CRS? Est-ce qu'on est là pour protester contre Franco ou pour ficher une ratatouille au CRS? Et donc, il y a eu tout un débat politique.
Oui, une ratatouille sérieuse.
Oui, pour c'était symbolique. Là. Ouais. Non, c'était vraiment, il se prenait un carton, c'était... Ils se faisaient fiche en feu dans leur car. Non, c'était affreux. Et donc, là, il y a eu une discussion même sur le terrain avec non, on ne fait pas ça parce que. Et le commissaire politique demandant alors, est-ce que tu es prêt à assumer la part de clandestinité que revêt le fait de mettre à mort CRS fait. Et, non, peut-être pas. Il a eu ça le corps, et puis il est parti, mais il l'a pas fait. Donc, c'était tiré au cordeau. Tout était discuté, je suis absolument d'accord, tout était contrôlé. Tout était contrôlé. Et cet exemple-là me paraît fameux, parce que là, vraiment...
Et puis, il y en a qui sont allés plus loin.
Et il y en a qui sont allés plus loin, mais il y en a. Ils sont pas très compliqués. C'est Rouillant et trois ou quatre de ses affidés ici. Mais qui, par ailleurs, ce sont des garçons formidables. Enfin, comment dire, eux ont été à la même école que tout le monde ici, c'est-à-dire on était nourris tous d'antifranquisme, on était nourris d'une épopée révolutionnaire. Enfin, il fallait renverser le vieux monde pour en mettre de neuf à la place. Il fallait tout bousculer. Donc ça, on partageait tous cette même chose. On partageait tous vous vous souvenez peut-être de la cantine qu'il y avait à Arnaud Bernard, un petit restaurant qui s'appelait la Casse. Voilà. C'était absolument simple d'y aller, et donc à partir de là, c'était absolument simple de copiner, c'était absolument simple d'avoir accès à un tas d'armes. Tout le monde pouvait avoir accès à tout ce à quoi Rouillant a eu accès. Mais Rouillant s'était enfermé très tôt dans une mécanique. Comment dire ? Il s'était fait un film, il s'est raconté une histoire, et lui n'a pas fait que imaginer que la révolution était au bout du fusil. Il a pris le fusil pour la faire. Bon, il a pris le fusil, il a eu le fusil, mais il n'a pas eu la révolution au bout. Mais, et donc, ça reste très limité, y compris autour, à Toulouse. Quand on les voyait revenir, souvent crottés, dégueulasses, parce qu'ils venaient de traverser les Pyrénées à pied, ils faisaient la révolution à Barcelone, c'était pas des rigolos, ils étaient clandestins à Barcelone, donc en plein pays franquiste. Et donc, de temps en temps, ils traversaient les Pyrénées, ils revenaient, ils étaient crottés jusqu'au nez. Tout le monde savait très bien qu'est-ce qu'ils faisaient, qui ils étaient. Mais personne n'adhérait, personne ne les condamnait, parce qu'on ne condamnait pas un antifranquiste, mais personne n'aurait imaginé les suivre. Donc, ils sont restés absolument isolés, parce que la révolution, la révolution était à l'ordre du jour, mais pas la prise de pouvoir, et donc pas les armes.
Oui.
Tout à fait, on revient.
C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Dorian et Valentin que je remercie. Vous pourrez retrouver cette émission d'une part demain à 11h et d'autre part sur le site de la station Esprit Occitanie, bien évidemment avec tous les autres podcasts. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.